La Libre Antenne. Sabine Marin.
Comment allez-vous? Je suis heureuse de vous retrouver en ce milieu du mois d'octobre. Nous sommes ensemble en direct jusqu'à 1h du matin. Et je vous rappelle que si vous souhaitez passer à l'antenne, il vous suffit d'appeler dès maintenant le 3921. Vendredi 15 octobre, nous sommes à 136 jours du printemps, période de renouveau. La période de l'année où nous devrions prendre exemple sur la nature, laisser à l'été ce qui lui appartenait, laisser les feuilles tomber pour mieux les retrouver plus tard. Nous détacher pour nous renouveler. Et oui, mais malheureusement pour nous, le détachement est l'une des choses les plus difficiles qui soient. On résiste souvent parce qu'on a peur de perdre l'objet de notre attachement. Pardon. On veut que les choses se passent à notre façon, que les autres agissent comme on aimerait, que la vie se déroule comme on l'a programmée. Et pourtant, à chaque fois qu'on résiste, qu'on bloque, on souffre un peu plus. Le détachement, ce n'est pas s'éloigner des autres, ce n'est pas non plus être indifférent à ce qui arrive quand on attend quelque chose, par exemple, non. C'est juste laisser le passé là où il est. Et rester ouvert à ce qui arrive, peu importe le résultat. C'est accepter de composer avec ce que la vie met sur notre chemin. C'est un grand exercice de confiance, d'ouverture de cœur et d'acceptation. Alors si vous avez besoin de vous détacher, de prendre un recul nécessaire par rapport à quelqu'un ou par rapport à une situation, parlons-en, appelez-moi dès maintenant au 3921. Cindy et Nicolas sont prêts à recevoir vos appels et à vous guider jusqu'à moi, 3921 donc pour le téléphone. Vous savez que vous pouvez aussi réagir et participer par SMS en tapant le 739-21, en commençant votre message par le mot « nuit ». Votre soutien, votre expérience, vos conseils y sont les bienvenus. À la réalisation ce soir, c'est Romain Le Born que nous retrouvons. On baisse les lumières, on ouvre l'antenne et on y va.
Vous aussi, venez vous confier à Sabine Marin en appelant le 3921, 50 centimes la minute.
Et mon premier appel est l'appel d'Iliana. Bonsoir à vous, Iliana.
Oui, bonsoir, Sabine. Merci.
Soyez la bienvenue.
Merci beaucoup. Alors, ce que je vais témoigner pour tous les auditeurs et auditrices, c'est en rapport avec Jean-François, je pense. C'était dimanche dernier. Or, je ne sais plus vers quelle heure c'était. Bon, moi, j'ai un accent, je suis du sud, enfin du Vaucluse, voilà.
D'accord.
Et bon, en 2001 ou 2002, je crois que c'est en 2001, j'ai fait un arrêt cardiaque dû à une petite anesthésie locale. Et bon, ben, du coup, j'étais en mort, j'ai fait une expérience de mort imminente. Hein. Voilà, quand je suis revenue à moi, le médecin me dit « Vous avez fait un arrêt cardiaque, on ne croyait pas vous récupérer.
Voilà. » Alors, attendez, vous étiez là-bas pour une opération grave ou pas?
Oui, non, une petite opération, des varices.
Oui, effectivement, ce n'est pas quelque chose de très lourd.
Voilà, non, ce n'est pas lourd, c'était en ambulatoire. Le problème, c'est que ben, je transporte sur moi des petits papiers de ne pas me piquer à la xylocaïne pure. Parce que ben, je ne le supporte pas, mon cœur s'arrête. Je suis une ancienne sportive, j'ai un cœur qui bat entre 40 et 44. Et la xylocaïne pure fait descendre le rythme cardiaque.
Mais vous parlez de petits papiers, mais normalement on voit un anesthésiste avant l'opération, on en parle de tout
oui,
ça.
Oui, non, non, c'est après, ce que je me suis peut-être mal exprimée, c'est après cet accident, de l'arrêt cardiaque. Bon, le médecin m'a dit portez sur vous un papier
pour
vous arrive un accident ou un malaise, qu'on ne vous pique pas ou quand je vais chez le dentiste, ben faut que ce soit un mélange d'adrénaline et de xylocaïne ou autre chose quoi. Voilà.
D'accord. Donc avant l'opération, vous ne le saviez pas vous-même.
Ah non, pas du tout. Je suis partie confiante. Même une amie m'a accompagnée, on riait. C'était vraiment... Vraiment, je ne m'attendais pas du tout à ce qu'elle allait m'arriver.
Et donc là, arrêt cardiaque, au moment où il vous anesthésie, c'est ça?
Il m'a anesthésiée. J'ai senti une chaleur dans le corps. Et je commençais à voir jaune. Et après, noir. Et après, j'ai vu deux êtres de lumière. Vraiment, ce que j'ai dit, c'est sérieux, hein, parce que je ne peux pas me permettre de mentir ni à moi-même. Ça m'a fait rentrer dans la spiritualité. J'ai vu deux êtres de lumière immenses, avec des yeux perçants, alors qui parlaient une langue, c'était l'araméen. Voilà. Je me suis après documentée là-dessus, pas de suite, hein, parce que j'ai eu un choc un peu psychologique. J'ai dit, mais qu'est-ce que c'est ça? Le docteur, quand je suis revenue à moi, j'avais l'impression que mes yeux n'arrivaient pas à rentrer dans mon... Enfin, ma vision n'arrivait pas à rentrer dans mon corps. Ça faisait, vous savez, comme des fois quand on voit aux anciennes télévisions des traits. Il a fallu que vraiment revenir dans mon corps, ça a été difficile.
Est-ce que vous avez eu cette sensation d'être sortie par le haut du crâne de votre corps?
Je n'ai pas senti ça. Ça a été vraiment voir jaune. J'ai dit au docteur, je ne me sens pas bien. Après, j'ai vu noir. Et puis après, ça a été direct. Alors, par rapport à d'autres gens, parce que j'ai écouté beaucoup de témoignages, enfin, de conférences, je suis déplacée avec une amie. Ce que je peux comprendre par rapport aussi à Jean-Jacques Charbonnier, le médecin anesthésiste qui fait beaucoup de conférences là-dessus, qui parle beaucoup de gens qui ont vu leur vie défiler ou leurs parents. Voilà. Moi, je crois que pour certaines personnes, certains voient leur conjoint, leur conjointe, leur mère, leurs enfants, etc. Quand il y a l'amour. Moi, mes parents, ça a été très, très, très dramatique. Ils n'ont pas le statut de parents, mais je suis passée dans la résilience. Voilà,
oui, je suis pas restée
dedans. Voilà. D'où je pense que ces grands, pour moi, ce sont des anges, hein, des anges gardiens que j'ai vus, ou des anges, voilà, tout simplement. Il y en avait un à ma droite et un à ma gauche, et moi, j'étais au milieu. Mais c'était d'une luminosité. J'étais bien. Franchement, ça m'a
apaisé.
Ça m'a apaisé.
Mais est-ce qu'à ce moment-là, vous sentiez votre corps et vous étiez consciente de ce qui se passait au bloc?
Non. Non, par contre, c'est un deuxième témoignage que je vous dirai après, où j'ai vu comment que je sortais de mon corps. Mais ça, je parle de la première expérience. Sabine, si vous voulez bien, je vais terminer avec cette première expérience. Il y a vraiment une vie après la mort physique. Voilà. Moi, j'ai vu ces anges qui parlaient, qui m'ont fait comprendre qu'il fallait que je revienne. Par contre, j'ai eu encore un autre problème à ce niveau-là, où vraiment, comme vous dites, je suis là, je me suis vue sortir de mon corps. Je me suis vue flotter, aller dans des pièces. J'étais aussi dans une micro-calcification au sein gauche, où je me suis vue, j'ai perdu connaissance là. Là, c'était pas un produit anesthésique, c'était rien, il n'y avait rien de chimique. J'ai simplement fait un choc, voilà. Par contre, là, je me suis vue sortir de mon corps, je flottais, et je suis passée par une pièce. Je voyais des gens qui regardaient la télévision. Je dis, tiens, c'est bizarre. Puis après, je suis revenue, et j'ai vu mon corps un peu plus bas. Et j'ai été, ça m'a un peu, comment dire, ça m'a fait drôle, quoi. Ça m'a fait comme un choc, et je suis, pouf, revenue directement dans mon corps. Et l'infirmière, elle m'a dit, mais vous nous avez fait peur. Vous avez fait un gros malaise et on va prendre une direction pour vous amener dans une chambre.
Mais là, pardon, elle vous a dit gros malaise, mais il n'y a pas eu d'arrêt cardiaque cette fois-là.
Je pense pas. Hein,
non, elle
m'a pas parlé. Ouais. Non, elle m'a pas parlé d'arrêt cardiaque. Moi, par contre, ce que je sais, c'est que j'ai fait, je suis sortie de mon corps. Vous savez pourquoi je peux le dire? C'est parce que quand elle m'a dit, on va vous mettre dans une chambre, je vais vous faire passer par un raccourci, et on est passé par cette fameuse pièce que je n'avais pas vue au début, avant de rentrer dans la pièce pour faire le repérage de la micro-calcification. Je ne pouvais pas avoir vu cette pièce, ni ces gens regarder la télé. Et c'est là que je me suis dit, oh là, qu'est-ce qui se passe?
Il s'est passé quelque chose, ouais.
Voilà, il s'est passé quelque chose. Là, ça m'a fait drôle, parce que j'ai dit, ces gens, je les avais vus, sans les avoir vus avant. Je ne sais pas si j'arrive à me faire comprendre. Voilà, et puis simplement pour dire à Jean-François qui a perdu sa maman, que sa maman, Je pense, hein, ce que j'en pense moi, les êtres chers que l'on perd ne sont pas, comment dire, perdus. Ils vont et viennent.
Alors
ça.
Justement, voilà. Iliana, si vous permettez, on marque une courte pause et j'aimerais savoir ensuite ce que ça a changé dans votre vie à vous, cette expérience-là, d'accord?
Ah oui,
merci
d'accord.
Beaucoup, à tout de suite.
Vous aussi, laissez votre message à Sabine Marin au 739-21. 75 centimes plus coût du SMS.
Alors Iliana, avant que nous reprenions notre conversation, j'aimerais juste de vous dire deux choses. Petite précision pour les gens qui ne savent pas forcément de quoi on parle. On parle de NDE ou de EMI. Alors NDE, c'est l'abréviation anglaise de Near Death Experience, qui veut dire expérience proche de la mort. Et en français, on appelle ça EMI, donc expérience de mort imminente. Voilà, que les choses soient clairement dites. Et Théodora a envoyé un message en disant... J'ai vécu une sorte de NDE, j'ai vu une douce lumière dorée, j'ai senti un amour immense, comme l'univers est léger comme une plume.
C'est beau.
C'est joli, hein ?
Oui, c'est très beau.
Alors ma question était juste avant la pub, qu'est-ce que ça a changé pour vous finalement, toute cette expérience ?
Moi c'est une EMI, mais bon, moi ce que ça a changé, c'est mon détachement des valeurs, des valeurs matérielles. Mmh. Je ne dis pas qu'avant j'étais matérialiste, c'est pas ça, j'étais un peu... Bon, je faisais mon travail en tant qu'éducatrice sportive, j'étais à fond dans le sport, très très serviable, mais bon, sans plus. Moi, ce que ça m'a apporté, c'est me tourner vers la spiritualité et vers Jésus-Christ. Parce que j'ai lu le bouddhisme, le Coran, la Bible, qui pour moi est un historique, mais le message de Jésus-Christ, je suis le chemin, la vérité et la vie, c'est vers lui que je me suis tournée.
Mais avant voilà. Ça, non, pas du tout ?
Avant, je croyais en Dieu, mais sans trop me poser de questions. Mmh. Voilà. Je me dis, bon, il y a un grand esprit, comme diraient les Amérindiens.
Une énergie spirituelle, on va dire. Quoi.
Voilà, ouais. Qui a créé la vie et la mort. Voilà. Mais bon, y a-t-il une vie après la mort ? Je ne me posais pas la question. Mmh. Voilà. Et en ayant eu cette expérience de mort imminente, ces anges, moi je n'ai pas vu mes parents, parce que mes parents ne sont pas des gens, n'ont pas été des parents corrects.
Oui, vous l'avez expliqué.
Bon, voilà, mon père est psychopathe, bon bref, c'est, voilà. Oui. Ma mère, n'en parlons pas. Et je ne pouvais pas voir mes parents, pas dans le sens que je ne voulais pas les voir, c'est que j'ai vu ces anges. Voilà. Et je pense que ces gens, des gens qui ont perdu des êtres chers, ces êtres chers sont avec eux. Ils sont avec eux parce que l'esprit, ce n'est pas une cellule. Alors la lumière qu'on peut voir des parents, des enfants, ou même des animaux, hein, parce que les animaux aussi, ils ont une âme. Hein,
bien voilà. Sûr, bien sûr.
Et je pense qu'ils sont avec nous quand on n'est pas bien. Mais il faut qu'on... Enfin, moi, ce que j'en pense, c'est qu'il faut que la vie que l'on témoigne dans la vie de tous les jours, avec nos semblables, c'est d'être dans l'amour fraternel, le respect, l'honnêteté. Voilà, toutes ces valeurs. Moi, ça m'a beaucoup rapproché de ces valeurs-là.
Est-ce que vous avez osé parler de tout ça tout de suite après cette première expérience ?
Ah non, non.
Ah, c'est
non,
ça,
non,
parce que souvent, on n'ose pas, on a peur de passer pour une folle. Hein.
Ah non, non, je n'ai même pas parlé au docteur qui m'a dit vous êtes revenu, votre cœur s'est arrêté, ma première expérience.
Vous n'avez rien
dit ?
Ah
non, non, non. Ah non, non, j'en ai parlé à une amie qui était psychanalyste, et elle me dit, oh, ben justement, je m'intéresse à des conférences, on avait été voir une conférence justement sur les EMI, mm-hmm. Et il y avait des gens qui avaient témoigné. Bon, après, il y a des gens peut-être qui ne sont pas sérieux, moi ce que je dis c'est très 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 sérieux, j'en parle pas à tout le monde, même pas à des gens que je connais. Là, je me permets parce que je pensais à ce monsieur, Jean-François, là, qui était dans tous ses états d'angoisse.
Angoisse de la mort.
Je pense que dans la mort, ce qu'on a peur, c'est pas de passer dans l'autre dimension, c'est de souffrir. La souffrance. C'est-à-dire, par exemple, un accident ou une maladie, ces choses-là. Quoi, voilà. Moi, je pense que c'est surtout ça qui fait peur. Et de l'autre côté, c'est vraiment la paix, l'amour inconditionnel. Enfin, c'est vraiment une plénitude. On est vraiment c'est pas comparable. Voilà.
Et vous savez qu'il y a des milliers de témoignages comme les vôtres à travers le monde et beaucoup de livres qui ont été écrits aussi sur le sujet.
Oui, oui. Elisabeth Kubler-Ross, je l'ai lu il y a longtemps. François Brune aussi. Et puis d'autres. Et puis j'avais écouté aussi les conférences de Jean-Jacques Charbonnier, anesthésiste, qui avait expliqué aussi une dame aussi qui était américaine, je crois, qui avait été opérée et qu'après, à son réveil, elle avait dit tout ce que les anesthésistes avaient dit et ce qu'ils avaient utilisé. Ça, vraiment, on ne peut pas tricher avec ça.
C'est inexplicable sur le plan terrestre, en tout cas, on va dire.
Voilà, c'est ça.
Mais alors, à quel moment avez-vous eu le déclic d'en parler plus autour de vous, à des gens plus proches à la famille, par exemple
Non, pas famille. Famille, non.
Non.
Comme j'ai pas de... J'ai été abandonnée et maltraitée vers l'âge de 7 ans. Bon, j'ai été placée. Et j'ai beaucoup travaillé sur moi en philosophie. Par contre, moi, c'était un peu ça. Avant mon EMI, c'était surtout la philosophie qui m'intéressait. Mm-hmm. Maintenant, ça m'intéresse toujours. J'écris des récits, etc. Je vois beaucoup de souffrance dans ce monde. Et ce que ça m'a apporté, Sabine, ce sont des ressentiments. Des ressentis sur des gens qui sont en souffrance. Je ressens ça sur les gens.
Une sensibilité plus accrue.
Voilà, c'est ça. Quand je vois des gens en souffrance, des fois je leur dis des choses, ils me disent « Mais comment vous pouvez savoir ?» Mais je dis « Je ne peux pas vous le dire, je le ressens. »
Comme voilà. Si un canal s'était ouvert.
Voilà, c'est ça. C'est ça, exactement ça. Ça m'a apporté ça. Une clarté d'esprit, une ouverture d'esprit, une grande tolérance. Parce que, bon, vous savez, Sabine, quand on est dans les milieux du sport, dans le fitness, il faut bouger. Et je pensais plutôt au sport, à la philosophie, et je pensais pas trop à la spiritualité. Et on va dire, quand il est arrivé ça, bien 6 à 7 mois après, parce que vraiment, ça me travaillait. Et je me dis, il faut que j'en parle à quelqu'un. J'en ai parlé à Guylaine, une amie. Et après à Jenny, une autre amie. Et on a été voir des conférences. Et on a eu des témoignages de personnes différentes. Et moi, ça m'a rassurée. Parce qu'à un moment, je me suis dit...
Je deviens folle.
On va te prendre. Voilà, c'est ça. On va te prendre pour une folle, une illuminée.
Beaucoup de gens racontent à peu près la même chose, d'ailleurs. Vivent un peu une expérience similaire et disent aussi après j'ai pas osé en parler de peur qu'on me prenne pour une dingue.
Oui.
Mais il y a eu tellement de témoignages à travers le monde que c'est difficile de ne pas écouter et de ne pas au moins se dire qu'il y a quelque chose. Quoi.
Non mais je vous promets Sabine, il y a quelque chose. C'est la famille n'est pas perdue. Après moi je pense que comme je crois en Jésus-Christ, ceux qui croient en Jésus là je parle pas de la religion hein, parce que les gens confondent souvent religion et spiritualité.
Et je suis entièrement d'accord parce que moi je ne suis pas du tout branchée dans tout ce qui est religion mais dans tout ce qui est spirituel, oui, beaucoup plus.
Parce que j'ai beaucoup lu les philosophies, c'est sûr, j'ai lu tous les auteurs. J'ai commencé par Platon, Socrate et compagnie. Par contre, la religion, ce qu'il y a de... Je ne dis pas qu'il y a que des mauvaises personnes dedans, mais je trouve que c'est un peu toxique dans le sens que, on va dire, qu'ils disent « Chacun, la soupe est meilleure chez moi, mieux que chez les autres ». Ça, c'est pas de la spiritualité.
Moi, ce qui me gêne, c'est la dépendance que ça crée, surtout. Mais bon, c'est un autre débat. Mais vous savez, ce qui me surprend, oui et non, dans votre témoignage, c'est que finalement, c'était il y a plus de 20 ans, et que vous en parlez comme si c'était hier, ça vous reste en mémoire intacte.
Quand je vais pas bien, Sabine, mais j'en parle aussi à tous les auditeurs et auditrices, pensez à nos anges, parce que on a tous des anges, hein, même si on a des parents qui sont pas avec nous. Je pense à ce monsieur Jean-François, sa maman, elle est près de lui, quoi qu'il en dise. Il faut pas qu'il ait peur, il faut qu'il ait confiance en lui, en sa maman, en sa famille. Mais pour tous ceux qui ont perdu des êtres chers, quoi, ils sont pas seuls. On n'est pas seul. Même si par moments on n'est pas bien, parce que dans le monde, ce monde va mal actuellement. si vous regardez bien dans le monde entier, il y a des problèmes de guerre, de maltraitance, de torture. Les gens sont perturbés. Mmh. Et moi, je pense que la meilleure des spiritualités, comme je disais même à mon frère, je disais, c'est l'amour, le respect, la tolérance, la compassion, c'est toutes ces valeurs que, malheureusement, quand vous avez parlé au début là, du détachement, c'est vrai qu'effectivement, il faut qu'on apprenne à se détacher de ce qui nous, ce qui est négatif, qui nous apporte un mal-être, quoi. Voilà.
Et oui. C'est notre apprentissage. C'est le travail qu'on a à faire ici. C'est notre apprentissage.
C'est l'école, voilà, tout à fait. C'est l'école de la vie et de l'amour. Et puis les êtres peuvent changer aussi. Une personne peut être, méchante entre guillemets, parce qu'elle est en souffrance.
Bien sûr, toujours.
Puis après, avec le temps, elle peut changer, quoi. Il suffit qu'elle soit ouverte. Voilà, c'est pas facile à dire, mais je pense que c'est que chaque être peut avoir beaucoup de potentiel. Chaque individu a beaucoup de potentiel en lui, mais que malheureusement on leur apprend pas,
on leur montre pas où il est.
Dès le plus jeune âge, il faut leur apprendre que chaque individu, petit enfant, après adolescent, etc., on a tous un potentiel d'ouverture vers les autres, vers la tolérance, vers l'amour, la fraternité. Et malheureusement, en ce moment, c'est pas trop ce qu'on voit. Mais faut se construire soi-même de façon à avoir, comme il dirait Jésus, le casque de la foi, l'épée de vérité. Et voilà, ça c'est important, toutes ces choses-là.
Moi, je pense que nous sommes là pour, sur notre chemin, devenir la meilleure version de nous-mêmes.
Tout à fait.
Et que c'est un travail quotidien. Au lieu de s'occuper de critiquer les autres, devenons déjà notre meilleure version de nous-mêmes.
Oui.
Et ça sera déjà un sacré chemin de fait.
Exactement, exactement. Comme il l'a dit Nietzsche, il faut qu'on se fasse, elle l'a dit exactement, soit le sculpteur et le maître de toi-même. Voilà, c'est ça. Bon, je ne suis pas nietzschienne, hein, mais il y a des phrases chez chaque philosophe ou grand maître, des phrases positives, quoi.
Voilà. Merci beaucoup, Iléna, pour ce beau témoignage qui, j'espère, va donner espoir à beaucoup de gens.
Oui, voilà.
Apporter un peu d'amour et un peu de douceur dans ce monde.
Voilà. Et qu'ils ne sont pas seuls. Dites-leur bien qu'ils ne sont jamais seuls. Voilà, ça c'est important.
Merci beaucoup pour ce message, Iléna.
Voilà. Au revoir, Sabine, et au revoir à tout le monde.
Au revoir, Iléna. Bonne soirée.
Bonne soirée, au revoir.
Sabine Marin est à votre écoute sur Europe 1.
Et c'est Karim que j'accueille maintenant sur notre libre antenne. Bonsoir à vous, Karim.
Oui, bonsoir Sabine. Comment allez-vous ?
Je vais bien, je suis ravie de vous accueillir.
Merci, c'est gentil.
Alors, dites-moi ce qui vous amène, Karim.
Oui, je souhaitais en fait pouvoir parler un peu de ce grand sentiment très profond de solitude que je ressens depuis plusieurs années.
Oui.
Alors, oui, c'est quelque chose, j'ai l'impression, qui est très récurrent en moi et par rapport à certains soucis que j'ai eus dans mon enfance et mon adolescence, me poursuivent encore, même après avoir fait beaucoup de remises en question au niveau de mon relationnel et de mon ressenti, en fait,
alors,
intérieur.
Racontez-moi le début de votre histoire de vie, déjà, qu'on pose les bases.
Et alors, donc, je suis né à Paris, d'une famille, en fait, de mixte, de parents immigrés, d'une mère de Bosnie et d'un père de Tunisie.
Mmh.
Qui se sont rencontrés dans les années 50. Et donc, une cinquantaine d'années de cela, je suis né dans cette belle ville de Paris. Et en fait, j'ai eu une enfance un peu chaotique, puisque au bout de 6 années, ma mère s'est séparée de mon père. Bon, ils n'étaient pas mariés, mais c'était quand même une relation très conflictuelle et même ultra violente, puisqu'il y avait des maltraitances physiques de la part de mon père sur ma mère.
Et sur vous ?
Sur moi en particulier, non. Et ni sur ma sœur, qui est d'un an plus jeune que moi, d'ailleurs, non plus.
D'accord.
Mais ça a imprégné, si vous voulez, une sorte de schéma qui m'a profondément meurtri.
Évidemment, oui. Pour un petit garçon, grandir avec ça sous les yeux, c'est terrible.
Oui, exactement, oui.
Et donc, votre maman, comment elle a réussi à avoir le courage de partir ?
Eh bien, en fait, elle a vu que, justement, ça impactait beaucoup au niveau de l'éducation qu'elle pouvait offrir à ma sœur et à moi. Mmh. Donc, nous étions vraiment tous les trois quasiment comme en osmose. Donc, nous étions finalement face à ce père qui était très nocif, entre guillemets, et qui, justement, à chaque fois qu'on le voyait, nous imposait cette image négative. Donc, elle a trouvé en elle les ressources, si vous voulez, puisque comme elle est venue d'un pays étranger, les gens en général qui ont ce parcours-là ont toujours une sorte de capacité en eux de pouvoir rebondir.
D'adaptation,
oui. Oui, d'adaptabilité. Mm-hmm. Et ensuite, de trouver en elle la capacité, le courage et la résilience pour justement sauver ses enfants et se changer en fait de panorama.
Alors, oui. Avant qu'on aille plus loin sur votre parcours à vous, est-ce que vous savez maintenant, avec le recul, pourquoi ce père était comme ça ? Qu'est-ce qui lui est arrivé pour qu'il en arrive là, lui ?
Ah, bah, c'est très compliqué. En fait, j'ai l'impression qu'il y a plusieurs facteurs. Je pense que le déracinement, d'une part, a été un facteur important.
Sans doute, oui.
Puisqu'il a venu d'une culture en fait, arabo-musulmane, justement, et qui a pu jouer justement sur son développement par rapport aux liens sociaux qu'il n'a pas pu peut-être concevoir dans sa vie professionnelle et amicale d'ailleurs. Mmh. Oui, parce que c'était quelqu'un qui avait justement très peu d'amis, donc dans ses divers emplois, il n'a pas su maintenir un lien durable en fait. C'était toujours chaotique, il y avait des périodes de chômage, des périodes d'emploi, puis des périodes de chômage.
Est-ce qu'il était très pratiquant ?
Et non, justement, non. En fait, il n'était pas du tout dans la religion. Et donc, il avait un rapport totalement, complètement aléatoire.
Là aussi, c'était chaotique.
Il ne savait pas où il se situait, en fait. Mm. En fait, il était souvent sous. Il avait un problème alcool aussi, donc c'était ça qui jouait, qui suramplifiait l'agressivité dont il pouvait faire preuve.
Ça va souvent de pair, malheureusement, la violence et l'alcool.
Oui, c'est vrai, oui. Mm. Et ça, pour constituer un socle, une fondation dans un esprit de jeune enfant, c'est très, très compliqué, très traumatisant.
Évidemment.
Ça m'a imprégné au fil du temps, et depuis l'âge de 6 ans jusqu'à 17, 18 ans, quoi.
Ça vous a nourri d'angoisse, surtout.
Oui, de peur d'abandon aussi et de...
C'est un abandon, un père qui se comporte comme ça, c'est sûr.
Oui, tout à fait.
C'est
oui.
un père qui ne se comporte pas comme un père, donc forcément, l'enfant se sent abandonné.
Oui, tout à fait. Oui.
Et souvent, tout malheureusement, on développe aussi une culpabilité, parce qu'enfant, on se dit, mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça ?
Oui, effectivement, oui. Oui, face à ce déferlement de...
De haine, disons, de colère.
Oui, de colère non expliquée et non...
C'est qu'un enfant n'a pas les moyens... Même si elle l'était expliquée, un enfant n'a pas les moyens de la comprendre intellectuellement.
Oui.
Il ne le vit qu'émotionnellement, donc c'est dramatique pour lui.
Tout à fait. Et cet enfant, justement, qui était en fait en moi, n'a pas trouvé d'autre voie que finalement de se renfermer de façon quasi autistique sur lui-même, quoi.
Oui. Vous êtes créé une coquille. Ouais.
C'est ça. Donc je n'avais pas du tout de lien avec des camarades de classe, ni quoi que ce soit. Je n'étais qu'un électron libre qui rentrait chez lui le soir, après l'école, et s'enfermait dans sa chambre.
Et aucun professeur s'est inquiété de ça à l'époque ?
Non, à l'époque, dans les années 80, ces problématiques-là n'étaient pas encore totalement développées dans le schéma de l'éducation nationale.
D'accord.
Donc malheureusement, j'étais livré à moi-même. Et comme je ne communiquais pas du tout non plus avec ma mère, puisque elle était aussi très pudique, donc très réservée sur son propre vécu, je ne pouvais pas échanger.
Même quand vous étiez tous les trois, quand elle était partie ?
Oui, même quand elle était partie, oui.
Il y avait un voile de pudeur un peu posé sur tout ça, sur ce passé ?
Oui, de façon récurrente, oui. Il était toujours présent, oui.
Mais est-ce qu'il lui faisait encore du mal après ?
Oui, indirectement, oui, il en a fait, puisque en fait, il a continué à être dans l'alcool, à être dans les conflits. Il a eu des séjours même en prison, il a eu des problèmes de repris de justice, donc ça aussi,
ah oui,
ça a impacté.
Ça a été loin.
Oui, ça a été très loin, oui.
Et est-ce qu'il vous voyait encore tous les deux, votre sœur et vous?
Très épisodiquement, oui. Mais en fait, c'était uniquement pour moi, de mon côté, me demander de l'argent, quoi. Donc c'était encore plus rajouter une agressivité qui s'accumulait d'année en année, en fait.
Oui. Vous auriez espéré un peu d'amour et c'est pas vraiment ce qui est arrivé, quoi.
Et non, ça n'est jamais arrivé, non. À quelque endroit que je me souvienne, non, ça n'est pas du tout arrivé.
Mais je crois qu'il n'en était pas capable.
Non, il n'avait pas les mots ni le fonctionnement mental pour pouvoir donner de l'amour.
Donc comment vous avez évolué dans votre bulle comme ça?
Bah, j'ai évolué en cherchant à être un bon élève, en travaillant jusqu'à la terminale, en étant premier de la classe, et en ne m'occupant pas du tout de ce qui se passait autour de moi, que ce soit au niveau familial, amical ou sentimental. Donc j'étais quasiment une sorte de... Oui, un enfant en marge de l'autisme, pratiquement. Je ne sais pas si ça s'appelait comme ça, mais pour moi, c'est ce que...
Un comportement autistique, en tout cas.
Oui.
Et vous ne faisiez pas...
Oui, parce que je n'avais pas les codes pour connaître...
Oui, c'est pour ça qu'on parle de comportement autistique, oui.
Les réactions d'autrui. Oui, je me trompais souvent.
Eh oui, c'est ça, effectivement, bah, ça ressemble à ça. Vous ne faisiez pas de sport ou de musique ou d'une activité qui aurait pu vous aider comme ça à vous ouvrir?
Non, je n'étais pas du tout inscrit dans une association sportive ni culturelle.
Donc aucune porte, quoi.
Non, pas des portes justement sur l'extérieur. Mmh. C'était uniquement les bandes dessinées, mon univers de bandes dessinées, de comics qui me rassuraient et qui me transportaient en fait ailleurs.
Oui. Vous êtes créé votre monde à vous?
Oui. Oui, quasiment, oui.
Et ça a duré jusqu'à quel âge, alors, cette vie-là avec votre mère?
Jusqu'à à peu près 22-23 ans. Mm-hmm. Jusqu'à ce qu'après, je décide, de voir, en fait, une bouteille d'alcool sur une table du salon et que j'en boive un petit peu pour après encore plus en... m'en imprégner et au fil des mois, des semaines, des années, finalement trouver un rempart au travers d'une plongée dans l'alcoolisme. En fait.
Et donc faire comme papa, finalement?
Oui, peut-être, oui. Oui. C'était le seul moyen pour moi de me rassurer et puis de faire face au monde, en fait, pour ne pas souffrir.
Et est-ce que ça a fonctionné?
Non, malheureusement, et ça m'a encore plus...
Ça n'est qu'un leurre.
...mis dans l'enfer.
L'alcool et la drogue, ce ne sont que des leurres.
Oui, des lubies, oui.
Non, pas des lubies, simples... des leurres. On pense que ça va être une béquille, en fait, c'est juste un croche-pied.
Oui, tout à fait, oui. Oui. Et puis, c'est un cercle vicieux, après, justement.
Ah ben, c'est une dépendance, très rapidement, oui.
Oui. Mais... Ce qui touche le plus, c'est le fait que personne n'en ait conscience, quoi. Après, c'est justement au travers... Bon, après, j'ai trouvé un travail, mais malheureusement, au travers de ce travail, je buvais encore plus, quoi, justement. Ça amplifiait encore plus le mal-être que j'avais intérieurement. Et les collègues m'en voulaient incroyablement.
Parce que vous aviez peur de ne pas réussir à vous adapter socialement avec eux?
Oui.
C'est ça.
J'étais dans un complexe d'infériorité totale.
Mais vous n'avez pas eu envie de vous faire aider par une thérapeute à ce moment-là?
Je me suis fait aider quand, en fait, j'ai vu que vraiment j'avais touché le fond.
Oui, c'est beaucoup de souffrance, hein, tout ça.
Oui. Uniquement au bout de, je dirais, une douzaine d'années d'alcoolisme dur. Mmh.
Ouais.
Et en 2003, j'ai décidé de faire une psychanalyse qui m'a sauvé la vie. À travers d'une psychanalyse en face à face, si vous voulez. De moi-même, j'ai décidé de relever la tête, en fait.
Formidable. Mais dites-moi, quand vous me dites « j'ai touché le fond », vous en étiez à combien d'alcool par jour, à peu près?
C'était, en fait, à peu près, je dirais, ça pouvait aller. Y a eu des journées où, par exemple, j'allais le matin dans une brasserie, dans mon quartier, à Paris. J'allais prendre un demi, à peu près à 11 heures, et je restais toute la journée accoudé au comptoir jusqu'à la fermeture, minuit, 23 heures. Oui, et donc ça faisait 8, 9 demi d'affilée, tout au long de la journée, sans interruption.
Ouais, c'était une fuite en avant, quoi.
Oui, tout à fait.
Et qu'est-ce qui a été le déclic, alors, pour que vous vous décidiez de vous prendre en main comme ça ?
Le mal fait autour de moi. Les gens qui me fermaient les portes, les unes après les autres, celle de ma mère, celle de ma sœur, tout le monde m'a tourné le dos, tout le monde m'a jugé.
Personne n'a essayé de vous tendre la main sans vous juger.
Bah oui, mais j'étais vraiment une bombe à retardement.
Ah. Vous étiez ingérable.
Je n'étais que de la haine et de la rancœur.
Vous étiez tout ce dont on vous avait nourri petit.
Oui, tout à fait, oui. Oui, ça. Et ça, justement, quand après, au travers de cette psychanalyse, j'ai enfin pu m'accepter du fait de mes origines, parce que ça a joué beaucoup, m'accepter comme issu de cultures différentes, accepter mon métissage, ça a joué beaucoup.
Oui.
Accepter mon physique, parce que bon, j'ai un physique. Bon, maintenant, je me plais.
Qu'est-ce qu'il a, votre physique ?
Je suis pas, hyper grand, quoi. J'ai l'impression que certaines femmes recherchent majoritairement des gens grands pour sortir avec, j'ai remarqué. Donc,
oui, ça c'est peut-être une croyance limitante, parce que une femme qui est petite sera contente d'avoir un homme à sa taille.
Hein. Ah oui, mais l'inverse est aussi vrai. J'ai l'impression que, surtout dans les grandes métropoles, elles recherchent souvent des gens qui les protègent, qui ont l'impression d'en imposer, entre guillemets.
Oui, je pense que ça vient plutôt d'un mal-être intérieur, ça, parce que, comme on dit, chaque peau a son couvercle, donc il n'y a pas vraiment de règles dans ce domaine.
Oui, mais comment ça se fait-il alors dans ces cas-là que, depuis toutes ces années où je me sens maintenant vraiment un homme comme je pense être, tout simplement, avec ses défauts, ses qualités, un visage avenant, agréable, souriant même. Comment se fait-il qu'il y ait toujours une sorte de, je sais pas, de blocage de la part d'autrui, des femmes en l'occurrence ?
Attendez, juste pour être clair, sur ce plan physique, vous mesurez combien ?
1m68. Pour 53 kilos.
Oui, bah vous êtes dans une norme un peu basse, mais il n'y a rien d'exceptionnel non plus. Vous n'êtes pas nain, quoi. Et il y a des femmes qui sont bien plus petites que ça. Je ne suis pas sûre que le problème vienne de là, vraiment. Je pense qu'il y a peut-être des choses encore chez vous, des blessures qui sont ouvertes et qui font que c'est compliqué peut-être d'entrer en relation avec vous. Qu'est-ce que vous avez vécu qui vous donne ce sentiment de rejet, là, par exemple ? Est-ce que vous avez déjà vécu une belle histoire d'amour avec une femme ?
Non, je n'ai pas eu de relation charnelle avec une femme depuis 18 années. Enfin, pour vous dire les choses tout à fait honnêtement, et ça, c'est ce qui me peine aussi.
Mais donc, il y en a eu avant ?
De façon vraiment très, très fractionnée, quoi. Vraiment, une, deux, trois, comme ça, quoi.
Mais donc ça a été possible. Vous voyez bien que c'est pas quelque chose qui n'arrive jamais.
Oui, oui.
Et qu'est-ce qui fait que, depuis tant d'années, qu'est-ce qui fait que, d'après vous, vous ne les rencontrez pas, ou vous les rencontrez et ça ne marche pas ?
Eh bien, il y a le fait que, étant inscrit sur certaines applications de rencontre, je n'ai rencontré que très peu. Et quand j'en ai rencontré une, la rencontre, malheureusement, ne s'est pas bien déroulée, puisque la raison pour laquelle on m'a invoqué qu'on ne souhaitait pas continuer, c'était le fait que je ne pesais pas un certain poids. Donc j'ai trouvé ça quand même curieux, quoi.
Ça, c'est n'importe quoi. Après, vous savez, c'est rarement la première rencontre la bonne. Et puis quand on n'a pas envie, pour une raison X ou Y, on peut aussi dire n'importe quoi à l'autre. Donc n'accordez pas plus d'importance que ça n'en a, à ce genre de réflexion.
Oui, c'est vrai.
Ça reste toujours... ce genre de rendez-vous, c'est très rare que ça matche du premier coup.
Oui.
Et quelquefois, quand on ne sait pas quoi dire, on peut dire n'importe quoi aussi. T'as les yeux verts et je préfère les yeux bleus. T'as les yeux marrons et je préfère les yeux verts. Enfin, c'est n'importe quoi. Voilà. N'allez pas vous focaliser sur une phrase comme ça parce que vous faites du mal pour pas grand chose.
Ah oui, oui.
Ça, c'est pas assez. Parce qu'elle a appuyé sur le physique. Pour vous, c'était un peu sensible. Mais Karim, vous l'entendez, il y a le générique. On va laisser la place aux infos, si vous le permettez.
Oui.
Et on reprend notre conversation dans quelques minutes.
Oui, d'accord.
Vous êtes d'accord avec ça?
Oui, tout à fait.
On va essayer de démêler un peu quelques nœuds.
Merci, Sabine.
Merci à vous, à tout de suite.
Europe 1, la libre antenne. Sabine Marin.
Vous êtes sur la libre antenne d'Europe 1. Nous sommes encore ensemble et en direct jusqu'à 1h du matin. Ça veut dire que vous pouvez continuer à nous appeler à n'importe quel moment. Tout simplement, vous tapez le 39-21 si vous avez envie de prendre la parole ce soir, de passer en direct sur Europe 1. 39-21, Cindy et Nicolas sont au standard. Ils attendent vos appels. Ils vous guideront ensuite jusqu'à moi dans ce beau studio tout bleu. Si vous avez envie d'intervenir par SMS, donner votre avis, apporter un soutien ou demander à être mis en relation avec quelqu'un qui vous a intéressé, qui vous a touché, vous faites le 739-21 et vous commencez votre message par le mot « nuit ». Enfin, je vous rappelle notre adresse mail, libreantenne en un seul mot, libreantenne@europe1.fr.
Sur Europe 1, la libre antenne, Sabine Marin.
Karim, êtes-vous là ?
Oui, je suis là, oui.
Donc vous me disiez que suite à une enfance chaotique, on va dire,
oui.
Vous avez beaucoup de mal à vous construire, notamment sur le plan sentimental.
Oui, c'est bien ça. Oui.
Et sur le plan professionnel aussi, parce que finalement, vous avez développé ce que vous appelez des comportements autistiques, de renfermement, oui. de difficulté à comprendre les émotions de l'autre.
C'est ça, oui.
Et peut-être aussi les vôtres.
Oui, également, ça joue aussi beaucoup, oui. Alors, sur le ressenti que j'ai. Oui.
Je me suis posé la question là, pendant les infos. Vous m'avez dit avoir beaucoup réfléchi, avoir beaucoup pris de recul, mais est-ce que vous avez vraiment été... accompagner profondément avec une thérapie jusqu'au cœur du problème.
En fait j'ai suivi une analyse en fait durant 5 années en fait.
Alors 5 ans, voilà, c'est ce que je me demandais. Ouais.
Ça s'est arrêté du fait que en fait comme c'était dans un cabinet privé, je n'avais plus les moyens.
Ça
si
coûte
vous voulez,
cher.
De...
Oui. Mais ça vous amenait jusqu'où ces 5 ans de thérapie? Qu'est-ce que vous avez compris finalement de tout ça?
J'ai compris que je ne devais pas avoir honte de m'appeler Karim. Mmh. J'étais quelqu'un qui avait des qualités et qui méritait de donner de l'amour et d'en recevoir.
Vous avez compris que votre valeur ne dépend pas de vos parents, mais de vous uniquement?
Oui, complètement, oui.
Et oui. C'est déjà un grand pas en avant quand on comprend ça.
Oui, c'est un immense pas en avant. Oui, tout à fait, oui.
Notre valeur, elle ne dépend pas de ce qu'on a fait ou dit quand on arrive au monde, mais elle ne dépend pas non plus de ce qu'on nous donne ou ce qu'on ne donne pas. Un bébé qui vient au monde, il a de la valeur, point.
Oui, c'est vrai, oui.
Non pas parce qu'il fait, parce qu'il ne fait rien du tout, mais parce qu'il est.
Oui.
Et donc vous avez de la valeur, quel que soit ce que vos parents ont pu ou n'ont pas pu vous donner, en l'occurrence.
C'est ça, oui, effectivement, oui. Oui.
Mais malgré ce travail-là, vous n'avez pas réussi à construire une vie sentimentale.
Et non, parce que justement, ces complexes d'infériorité étaient tellement profondément ancrés que même à l'issue de cette analyse, j'ai quand même toujours trouvé ce paravent d'alcool autour de moi pour effectuer une sorte de passerelle vers laquelle les autres ne pouvaient pas aller, quoi, en fait.
C'est intéressant comme image. C'est comme s'il y avait un gouffre devant vous et que pour le traverser, vous le remplissiez d'alcool.
Oui, c'est ça, oui.
Sauf que j'ai l'impression qu'au lieu de marcher sur l'eau, en l'occurrence sur l'alcool, vous vous y noyez.
C'est ça, oui. Je m'y noyais complètement, oui.
Mais là, aujourd'hui, vous en êtes où par rapport à l'alcool?
Eh bien, je suis sobre depuis 6 années.
Ah, bravo.
En fait, le déclic vraiment total, ça a été la mort de ma mère, justement, il y a un peu plus de 6 ans. d'une crise cardiaque à 82 ans. Et comme je l'aimais très profondément, ça m'a complètement chamboulé. Et au travers du processus de deuil, j'ai décidé de mettre totalement un terme définitif à l'abus d'alcool.
Finalement, comme si en faisant le deuil de cette maman, vous faisiez le deuil de votre enfance et donc, de vos souffrances aussi, peut-être.
Oui, par la même occasion.
D'où l'arrêt de l'alcool. Vous n'aviez plus besoin de combler quelque chose.
Oui, oui, oui.
Comme si quelque chose était parti en même temps que votre maman.
Oui, comme si ça s'était évaporé, oui. Ouais. Oui. Mais c'est un combat de tous les jours.
Oh, je
ne relâche jamais mon attention.
Bien sûr.
Oui.
Mais en tout cas, bravo. Et comment vous vous sentez depuis 6 ans, alors?
Je me sens vraiment un homme abouti. Je ne peux pas dire un autre mot. Je suis abouti. Je me sens avec un sentiment d'ouverture sur les autres. J'aime beaucoup de sujets de conversation. Maintenant, j'ai le contact facile.
Ah ben c'est extraordinaire. Quel cheminement, dites-donc.
Oui, ça a été un bouleversement en moi. Oui.
Ben, vraiment, je vous félicite parce que de là où ça a démarré, ça n'a pas dû être très facile tous les jours. Hein.
Non, ça a été vraiment un calvaire, vraiment. Sabine, c'est vrai, hein, je vous assure. Hein.
Oh ben, je vous crois. Oui. Je vous crois, Karine, bien sûr. Et en même temps, vous savez, comme je dis souvent, on ne grandit pas, on n'avance pas dans le coton. Hein.
Oui,
c'est toujours dans la souffrance qu'on apprend.
Oui, toujours dans la peine. Et c'est ça, oui. Trouver en soi la résilience, c'est ça qui joue.
Exactement. Et j'ai l'impression que vous avez trouvé un sacré chemin, une sacrée lumière en vous.
Ah oui, merci. Hein. Ça me fait chaud au cœur.
Mais c'est vrai,
c'est vrai
quand je vous écoute.
Oui.
Mais malgré tout, d'après ce que je comprends, il n'y a toujours pas d'amour là, dans votre vie.
Oui, parce que en fait, il réside toujours en une sorte de fébrilité en moi, presque de nervosité, si vous voulez. Ça se ressent peut-être intuitivement aussi.
Oui, même en vous écoutant, je le ressens, effectivement. C'est finalement, est-ce que je vais être à la hauteur? C'est peut-être ça, la toile de fond. Est-ce que je vais y arriver?
Oui.
Est-ce que je vais être assez bien pour elle?
Est-ce que je vais pouvoir séduire, mais d'une façon presque, finalement, dans un temps réduit. Presque tout avoir un minimum d'efforts, en fait.
Et pourquoi un temps réduit? Qu'est-ce qui vous presse?
Parce que le manque, la frustration aussi.
Attention de ne pas voir l'autre comme un pansement. Hein.
Non, justement, oui.
Et il faut éviter
justement.
Ça.
Oui, ce n'est pas une relation pansement, justement, vers laquelle je souhaite...
Je ne pense pas, parce que vu tout le chemin que vous avez déjà parcouru, je pense que vous êtes prêt à rencontrer quelqu'un qui aujourd'hui est en phase avec le Karim de maintenant, et pas le Karim blessé d'avant.
Tout à fait. Oui,
il faut juste que vous arriviez à intégrer qu'il faut qu'on vous aime, non pas pour ce que vous faites, mais pour qui vous êtes.
Oui.
Et que vous n'avez rien de spécial à faire pour être aimé.
Oui.
Juste être qui vous êtes. Et rencontrer la personne qui est en phase avec qui vous êtes, et non pas avec ce que vous faites. Il n'y a pas à faire quoi que ce soit.
Oui.
Il faut vous enlever cette pression-là.
Oui. Oui, c'est
la,
vrai.
La femme qui tombera amoureuse de vous, elle ne tombera pas amoureuse de vous parce que vous faites 1m25 ou 1m90, parce que vous avez les yeux verts ou marrons, parce que vous avez fait ceci ou fait cela, elle tombera amoureuse de vous parce qu'elle tombera amoureuse de votre cœur et de ce qui est à l'intérieur.
Oui, c'est vrai, oui.
Et ça sera du vrai amour.
Oui. Tout à fait, oui.
C'est vraiment important que vous preniez conscience que vous méritez d'être aimé pour qui vous êtes. Juste pour qui vous êtes.
Ouais.
Pour tout ce chemin que vous avez fait, pour votre cœur, exactement, c'est l'image qui me vient.
Oui.
Et cette sincérité qu'on sent en vous. Et donc, il n'y a aucune pression à vous mettre, il n'y a pas de choses à faire en particulier. Il faut créer des situations pour les rencontres, ça c'est vrai. Mais après, il faut aussi faire confiance à la vie.
Oui. C'est vrai, oui. Faire preuve de plus de légèreté, peut-être aussi, non?
Alors, c'est peut-être.
Vous avez dit que vous ressentiez que j'étais quelqu'un de très nerveux aussi.
C'est la pression que vous mettez pour être parfait, j'ai l'impression.
Ah non, mais même je sais que la perfection n'est pas de ce monde, hein. Sabine, j'en ai conscience.
Oui.
Mais c'est-à-dire que je pars de tellement loin, si vous voulez, que j'ai envie de compresser le temps, entre guillemets, en fait.
Oui, je comprends bien. Mais je ne crois pas que ce soit une solution. La preuve, c'est que ça ne marche pas.
Oui, c'est vrai.
Donc vous pourriez vous dire, voilà, j'ai essayé cette technique-là, c'est pas la bonne.
Oui.
Quelquefois, en voulant aller trop vite, on perd du temps.
Oui.
C'est pas une course de vitesse.
Oui.
La vie, c'est une course de fond.
Ah oui, c'est vrai, oui.
Et je vous ai pas demandé votre âge, Karim.
52 ans.
Oui, donc vous voyez, vous avez largement le temps. Vous êtes au milieu de votre vie, là.
Oui.
C'est... Je comprends que vous ayez hâte, mais j'en parle souvent. Être dans le besoin, c'est dangereux. Être dans l'envie, c'est plus constructif.
Oui.
Et là, tout à l'heure, vous étiez comme dans une espèce d'urgence à me dire « j'ai besoin de rencontrer quelqu'un ». Ça peut vous amener...
Ah,
ça...
mais vous êtes très perspicace, Sabine. Je vois. Vous avez noté ça, oui. Je n'avais pas fait attention.
Ah ben, les mots sont importants.
Oui.
Ce que le corps dit l'est aussi, mais je ne vous vois pas. Je ne peux me fier qu'à vos mots. C'est pour ça que j'écoute.
Oui.
Et souvent, je l'explique, être dans le besoin, c'est une dépendance et un déséquilibre. Être dans l'envie, alors là, c'est quelque chose de plus intéressant.
Ah, d'accord.
Et quand on se met la pression en disant il faut que vite que je rencontre quelqu'un, parce que maintenant c'est trop long, il faut que je récupère le temps perdu, cette pression-là, elle nous met vraiment en situation de besoin.
Ah.
Et ça ne fonctionne pas. Parce qu'en plus, on pourrait être prêt à aller avec quelqu'un qui ne nous correspond pas, en fermant volontairement les yeux sur des choses qui vont nous sauter à la figure plus tard. Donc, ce n'est pas une bonne idée.
D'accord, oui.
Si vous arrivez à lâcher prise là-dessus et à être juste qui vous êtes, sans vous dire que j'ai quoi que ce soit à prouver, je suis moi, je suis le moi que je suis aujourd'hui avec tout ce que j'ai appris de ma vie, et Dieu sait que j'en ai appris.
Oui.
Et avec cette sincérité-là que j'entends moi ce soir, vous rencontrerez quelqu'un qui est dans la même énergie que vous.
Oui.
Il y a Bob le timide qui vous envoie un message et qui dit « Bonsoir Karim, il faudrait que vous vous donniez confiance en vous-même et vous trouverez la personne qui vous conviendra. Moi aussi, je suis très timide, mais il faut garder espoir. »
Alors, juste une petite rectification par rapport à Bob le timide.
Vous n'êtes pas timide, hein, c'est pas la timidité chez vous.
Non, non, c'est justement un excès de presque de précipitation, en fait.
Oui, c'est pour ça.
Oui, c'est presque...
Il y a Yvette qui vous dit, en tout cas, vous pouvez être fière de vous. Il y a certainement une personne qui fera votre bonheur et à qui vous plairez. Évidemment, il y a une personne qui fera votre bonheur et vous ferez le bonheur de quelqu'un. Mais il faut appuyer sur la pédale frein un petit peu, là.
Oui. Ah, mais je me suis apaisée hein, depuis ces 6 dernières années, quand même. Je fais de la méditation tous les jours en travers d'une application qui m'aide énormément.
Ça, c'est formidable.
Qui me baisse au niveau de la tension nerveuse.
Mmh. Ben on le sait. Hein. Faire de la méditation, c'est un moyen d'appuyer justement sur un bouton pause, physiquement et mentalement.
Oui.
Et c'est un sacré soutien chaque jour, dans ce monde un peu de fou dans lequel on vit. Hein.
Oui, c'est vrai. Oui.
Et est-ce qu'aujourd'hui, en dehors des relations amoureuses, vous arrivez à développer quand même des relations sociales, amicales?
Ah non, je n'ai pas du tout d'amis. Tous les amis m'ont tourné le dos du fait de
l'alcool,
de mon alcoolisme sévère. Hein. Ouais, ouais.
Et vous sentez, est-ce qu'il y en a qui vous manquent et à qui vous pourriez dire ben voilà, maintenant c'est fini, je me suis soignée?
Ou vous malheureusement, j'ai perdu tous leurs numéros de téléphone par aigreur en fait et trop de blessures. J'ai préféré tout jeter à la poubelle en fait.
Bon, honnêtement, si des gens vous manquent vraiment avec les réseaux sociaux, ça se retrouve. Mais peut-être c'est l'occasion de vous faire de nouveaux amis, un nouveau cercle.
Oui.
Si vous arrivez à vous ouvrir davantage, peut-être vous inscrire dans une activité qui vous plaît. Inviter des voisins à passer prendre un café. Enfin, voyez, trouver des petites ouvertures qui vous construisent un nouveau monde.
Oui.
Une nouvelle période de vie. Comme si à 52 ans, c'était, voilà, je redémarre quelque chose de nouveau dans ma vie. Avec celui que je suis aujourd'hui, qui n'est pas du tout le même que celui que j'étais avant.
Oui. C'est vrai, oui. Oui.
Quelquefois, c'est pas très compliqué d'aller vers les autres. Un petit mot dans la boîte aux lettres en disant « Voilà, je suis votre voisin et je vous propose un café pour qu'on fasse connaissance. » Une discussion. Et après, il y a mille moyens de rencontrer des gens. Vous savez, beaucoup de gens sont seuls et n'attendent que qu'une chose, c'est qu'on leur parle.
Oui, mais même si autour de moi, c'est plus des foyers avec des familles, quoi. C'est rarement des gens qui sont célibataires.
Mais là, je ne vous parle pas de rencontres amoureuses.
Ah non, mais même, oui, mais même sur un plan amical.
On peut très bien être en couple et en famille et sympathiser. Moi, je suis très copine avec un de mes voisins qui a 23 ans et qui est célibataire, et ça n'a rien à voir, je suis en famille.
Ouais.
On s'est mis à parler d'animaux un jour et de chiens, et voilà, ça crée un lien dans l'ascenseur, et depuis, on est très potes. Il suffit quelquefois d'un petit truc. Même chez un commerçant du quartier, un sourire, un échange, et ça crée une connivence et un lien. Et puis après, on peut se dire, quand on s'est croisé plusieurs fois, bah tiens, si on allait boire un café ensemble.
Ouais.
Peu importe que les gens soient en famille, mariés, pas mariés, c'est pas une recherche de couple, c'est une recherche de contact.
Oui.
Et sinon, est-ce qu'il y a des activités qui vous plairaient ?
Bah, ce qui me plaît, en fait, c'est plus... Moi, je suis plus intéressé par les choses un peu comme les jeux télé, les choses comme ça. C'est plus ça, mon domaine, un peu.
Et l'impro théâtrale, ouais. c'est pas un truc qui vous amuserait, ça ?
J'ai essayé, mais j'étais tellement mauvais que j'ai arrêté.
Ah, mais alors, attendez, justement, s'il y a un terrain sur lequel il n'y a aucun jugement, c'est bien l'impro.
Oui, mais j'ai senti que je n'avais pas justement cette essence pour créer justement des
Mais attendez, c'était quand ça que vous avez essayé ?
2007.
Eh oui, c'était à l'époque où vous étiez l'autre, vous.
Oui.
Eh oui. Parce que justement, si je parle d'intro théâtrale, c'est que autant dans le théâtre, il y a du jugement, autant dans l'impro, on s'en fiche, on est juste là pour rire et apprendre à ne plus juger ni les autres ni soi-même.
Oui.
Et aujourd'hui, vous n'êtes plus le même, et vous pourriez peut-être réessayer et vous rendre compte que ça peut être très amusant. Et puis après le cours, on va boire un pot aussi avec les copains. Un petit café, un petit thé, et puis on discute.
Ouais.
Ou alors, il y a tellement d'activités sympas à faire comme ça.
Ouais.
Si vous êtes dans la méditation, il y a aussi des gens qui organisent des randonnées le week-end ensemble, juste pour marcher dans la forêt et se parler.
Oui.
Il y a plein de choses qui s'organisent dans les quartiers. Vous êtes en région parisienne, c'est ça ?
Oui, c'est ça. Oui.
Donc il y a beaucoup de choses qui s'organisent et qui peuvent être petit à petit aussi une manière de vous recréer un nouveau monde, votre nouveau monde qui ressemble à votre nouveau vous.
Oui.
Même s'il n'y a pas 50 personnes autour de vous, mais 3-4, ça suffit quelquefois. Si ce sont des gens qui sont dans la même énergie que vous, c'est formidable.
Oui, c'est vrai, oui.
Mais oui.
Ce qui compte, c'est ce qui émane des autres et de soi.
Et ce qui émane de vous, surtout. Et ce qui émane de vous m'a l'air bien sympathique et bien équilibré maintenant.
Oui.
Il y a plein de messages de soutien qui arrivent. Il y a Sarah qui dit « C'est un joli chemin de réussite que le vôtre. » Vous voyez ?
Oui.
Il faut vraiment croire en vous, Karim.
Ah, mais j'y crois, chaque jour.
Bon, bah, c'est très bien. Parce
chaque jour que je me lève... Je me dis que la vie est belle et mérite d'être vécue.
Ah, voilà un beau mantra. Donc, il n'y a plus qu'à.
Oui.
Il n'y a plus qu'à vous autoriser à la vivre, cette belle vie. Mais oui. Peut-être qu'il faut déclencher un peu les choses. Peut-être avez-vous tendance à attendre un petit peu qu'elles arrivent toutes seules, non ?
Un peu, oui.
Et oui, mais ça ne marche pas.
Oui.
On fait rarement de belles rencontres entre sa cuisine et son salon.
Ouais. C'est vrai.
Il faut faire le premier pas et puis voir ce qui arrive, faire confiance à la vie et puis voir ce qui arrive derrière. Et vous avez déjà surmonté tellement de choses que ça paraît tellement presque rien maintenant. C'est juste un petit saut de puce encore à faire. Pour vous ouvrir à l'amitié et ensuite à l'amour.
Ah. Donc, oui, ce sera encore long, quoi. J'aurai encore des cheveux blancs, si je comprends bien.
Pourquoi ce sera encore long ? Non, je vous dis que justement, il n'y a plus qu'un saut de puce à faire, que vous avez déjà fait le plus long. Pourquoi vous me dites que ça va être long ?
Mais c'est une idée que j'en ai.
Eh bien, c'est peut-être ça qu'il faut chasser comme idée, c'est en mettre une autre à la place. Parce que si vous vous répétez « la vie est belle, mais ça va être très long avant que je trouve quelqu'un », alors vous vous programmez pour ça.
Oui.
Vous savez qu'on croit à ce qu'on se raconte à nous-mêmes à longueur de temps. Et c'est pour ça que je dis souvent, on a, dans la vie, on n'a pas ce qu'on mérite, on a ce qu'on croit mériter. Mmh. Alors si vous passez vos journées à vous dire ça va être long, ça va être long, ça va être long, alors oui, ça va être long. Lâchez ça aussi, dites-vous simplement, voilà, j'ai confiance. Je m'ouvre, je fais des petites actions qui me permettent de m'ouvrir, je m'inscris à un club de quelque chose, une association.
Oui.
J'invite mes voisins, je me bouge un petit peu et je vois ce qui se passe. Quand on lance un mouvement, on voit ce que la vie nous renvoie.
Oui.
Et souvent, elle nous renvoie ce qu'on lui envoie à nous-mêmes. Donc, c'est notre propre énergie qui nous revient.
Oui.
Et la vôtre, elle est beaucoup plus jolie maintenant qu'il y a quelques années.
C'est vrai.
Donc, logiquement, vous devriez recevoir en retour des choses beaucoup plus jolies aussi.
Oui.
Puis déjà, le fait que vous ayez appelé ce soir, je pense que c'est déjà une façon d'aller, de venir frapper à une porte.
Oui. Oui, j'en ai l'impression, oui.
C'est la première fois que vous appelez à Libre Antenne ?
Oui.
Oui. Qu'est-ce qui vous a poussé à le faire ce soir ?
Ben, une réponse un peu, disons, froide sur un site de rencontre. Oui, voilà, c'est plus ça, oui, qui m'a incité. Ouais.
Ah, très bien. Vous laissez ça de côté.
Oui.
Les choses n'ont que l'importance que vous voulez bien leur donner.
Oui.
Cette personne-là, pour, vous ne savez pas pour quelle raison elle a répondu ça, ça la regarde. Si ça ne vous convient pas, vous fermez, vous dégagez et vous passez à autre chose.
Oui.
Et vous vous dites à vous-même, je mérite mieux que ça.
Oui.
Point. Et vous avez bien fait d'appeler justement au lieu de ruminer ça toute la soirée.
Oui, oui, oui.
Ça valait pas le coup.
Non.
C'est que c'est pas la bonne surtout.
Oui.
Bon Karim, je vous souhaite vraiment le meilleur maintenant.
Merci Sabine.
Bravo pour ce beau chemin de reconstruction, ça n'a pas dû être facile et je vous tire mon chapeau.
Merci infiniment, oui.
Et continuez vraiment vers nous.
Oui. Excusez-moi Sabine, puis-je me permettre si éventuellement des auditrices...
Oui, je m'y attendais un petit peu, donc effectivement. On a des, alors, oui. on me fait signe en régie qu'on a déjà. On a déjà des appels pour vous. Alors, vous savez comment ça se passe? C'est en fait...
Oui.
Cindy et Nicolas vous téléphoneront demain soir avant l'émission.
Oui.
Parce qu'ils vont récupérer toute la soirée jusqu'à la fin de l'émission, et demain par mail aussi, les numéros de téléphone des gens qui souhaiteraient entrer en contact avec vous.
Ah, ça peut être infiniment.
Alors, je vais rappeler. Donc, le numéro de téléphone, c'est le 3921.
Oui.
Les SMS, c'est 73921, suivi du mot nuit et de votre message. Vous laissez donc pour Karim votre téléphone et votre prénom. Et si vous souhaitez nous envoyer un mail, c'est libreantenne en un seul mot, libreantenne@europe1.fr. Voilà, avec tout ça, si vous n'êtes pas submergé de messages, alors je ne m'appelle plus Sabine Marin.
Ah, merci pour votre optimisme. Et franchement. Votre capacité d'écoute qui est vraiment exceptionnelle et vraiment qui est très très appréciable, je pense.
C'est gentil, Karim. Et j'ai hâte d'avoir la suite de l'histoire, moi, surtout. Vous me rappelez, vous me racontez, hein, dans quelques
temps. Oui, oui, oui.
D'accord.
Je n'y manquerai pas, Sabine, avec joie. Hein,
C'est super. Oui. Et moi, je vous promets que Cindy et Nicolas vous appellent demain soir avant l'émission pour vous transmettre tous les numéros.
Ah, merci. Merci infiniment, oui. Je croise les doigts.
Moi aussi. Passez une bonne soirée, Karim. Je vous embrasse.
Merci, très bonne soirée. Merci, Fabien.
Au revoir.
Vous aussi, venez vous confier à Sabine Marin en appelant le 3921, 50 centimes la minute.
Et c'est Nadine qui souhaite intervenir maintenant sur la libre antenne. Bonsoir, Nadine.
Bonsoir.
Soyez la bienvenue.
Merci, c'est très gentil.
Alors, je vous écoute, Nadine. Je crois que vous vouliez rendre un hommage ce soir.
Je voulais rendre effectivement un hommage à Samuel Paty.
Mmh.
Avant tout parce que je pense que cet enseignant était profondément amoureux, passionné de son métier.
Oui.
Plus qu'enseignant, je pense qu'il était aussi humaniste en étant au centre de son enseignement, les valeurs humaines. Et en portant sa confiance auprès de ses élèves, hein, dans les plongeant dans cette liberté d'expression qui est l'essentiel, le fondement, je dirais, du principe de liberté.
De nos valeurs,
valeurs qu'on est censé enseigner justement à l'école.
Vous êtes enseignante vous-même ?
Alors, j'ai été enseignante, je suis à la retraite depuis quelques années. Mmh. J'ai été effectivement enseignante, donc je connais bien le problème. Bon, il est vrai que j'ai moins, à l'époque, on parlait moins de ces problèmes, cette problématique déjà de violence, ce problème de laïcité. C'était beaucoup moins porté en exergue.
Ouais, l'école était encore un peu un lieu protégé, on va dire.
Il y avait quand même des violences, des problèmes, des choses qu'il ne fallait pas dire, mais il était moins question de cette thématique vraiment sociétale qui amène à ce drame.
Il n'y a plus de limite quoi, maintenant.
C'est très difficile. L'enseignement est quelque chose, c'est un choix, c'est une passion, c'est pas un métier. Donc les limites sont souvent et doivent être respectées par les enseignants, mais pas que. Et je pense que justement ces limites ne sont pas assez respectées par les autres, les parents, la hiérarchie. Il faut être. On est seul enseignant. Enfin, on est seul au milieu des élèves. Et si on n'a pas la confiance de tout le monde, parce qu'en général, il n'y a pas trop de problèmes avec les élèves. Bon, moi, j'ai eu des grands, des moyens, des petits, donc tous âges. Mais il est vrai que la famille est conditionnée, la famille a un rôle énorme à jouer. Oui. Et elle peut être source de problèmes.
Vous avez enseigné quoi ?
Moi, j'étais professeure des écoles, j'ai commencé ma carrière en éducation spécialisée avec des adolescents en problème avec des troubles de comportement.
Ah oui, donc vous avez été vraiment dans les situations compliquées, là.
J'ai été plongée d'emblée, oui, tout à fait, j'ai fait les remplacements, mais c'est quelque chose qui m'a vraiment plu. Quand j'étais plus jeune, donc...
Ça doit être très enrichissant, j'imagine.
Oui, tout à fait, c'est très enrichissant.
À la fois très dur, mais très... très voilà. Ouais. Instructif.
Il faut avoir la force, l'énergie. Ouais. Mais c'est vraiment passionnant parce que lorsqu'on arrive à gagner la confiance des élèves, de ces adolescents qui rejettent en plus la femme, j'ai appris sur le terrain et j'ai appris, oui, en tant qu'enseignante, on représentait la mère, donc on est la mère, la femme, donc on était rejeté par ces adolescents. Mmh. Donc gagner la confiance de ces élèves qui n'étaient pas forcément là à leur bonne place, mais bon, on ne savait pas trop où les mettre, donc on les mettait là et ça continue. Mais c'est quelque chose qui est fantastique.
Sacré challenge quand même.
Pardon ?
Sacré challenge quand même pour vous.
Oui, mais je me suis rendu compte que j'aimais vraiment ça. Mmh. C'est tout ce côté justement où on apporte, où rien n'est facile et où il faut faire des efforts de chaque jour. Et où on voit les efforts récompensés justement par ce dialogue qui se crée entre ces adolescents et puis après même les plus petits. Il faut qu'il y ait un échange, une confiance. Il faut qu'on parle le même langage. Et c'est très pointilleux et c'est vraiment, ça peut être mis en danger très vite.
C'est très fragile. J'allais même dire, il faut même, avant même de parler le même langage, il faut parler tout court. Parce que ce sont des enfants, des ados qui n'ont pas appris à parler, à s'exprimer avec des mots. Il leur manque ces mots-là.
Apprendre à parler, à se faire écouter. Parce que, effectivement, tout part de l'écoute. Après, le langage, c'est écouter. Le langage, c'est plein de choses. Hein, c'est l'émotion. C'est pas forcément un langage et peut-être non dit, c'est l'expression qu'on voit dans les yeux de l'enfant, de l'adolescent, la peur, le respect, l'admiration, la confiance. Ça part de tout ça, c'est vraiment c'est très profond. Et ce sont des émotions qu'on gagne, je dirais, tous les jours. Mmh. Et quand on parle de ce fameux vivre ensemble qu'on apprend à tout âge, plus tout petit, que ce soit en maternelle et toujours encore maintenant, et ça sera toujours à travailler. Et on part de cette cellule qu'on a créée, qui est vraiment, qui doit être unique. Mais voilà, il y a un mais.
Oui. Allô?
Oui, pardon. Ah,
j'ai cru que ça avait coupé. J'ai eu peur.
Non, c'est un petit peu l'émotion qui gagne, parce que c'est vrai que je revis certaines choses, et puis Samuel qui était, je le sentais passionné, à travers tout ce qui a été dit, mais c'est vrai qu'il était passionné.
Je trouve qu'il portait la bonté et l'intelligence sur son visage.
Tout à fait. C'était quelqu'un de... Ça ne peut être que quelqu'un d'ouvert. De toute façon, je répète, c'est une passion d'enseigner et je pense qu'il était vraiment... j'ai dû le dire, je ne sais plus, vraiment humaniste. Il avait cette envie d'apporter, de donner de partager cette liberté qui est une valeur qu'on n'a pas forcément et d'en faire prendre conscience à ses élèves. C'est quelque chose d'extraordinaire. Tout le monde ne le fait pas parce que c'est un challenge, c'est beaucoup de patience, c'est se faire comprendre, se faire entendre, se faire respecter. Malheureusement, le drame a montré que le respect n'est pas gagné.
Ce sont des enfants qui ne se respectent pas eux-mêmes.
Les enfants ne se respectent pas, ou ne sont pas respectés.
Ça commence par là, évidemment.
À leur famille. De toute façon, ça commence toujours à la maison, bien sûr. La famille est tellement... c'est le conditionnement de l'enfant, du petit enfant qui grandit. Et c'est vrai que l'enseignant apparaît un petit peu comme un étranger à tout ça. Il faut vraiment jongler avec toutes ces valeurs, avec une approche délicate. Il faut y aller sur la pointe des pieds. C'est très dur, le métier d'enseignant. C'est très dur. J'ai dit que c'était pas un métier, mais bon, on le considère comme tel. Mais c'est vraiment très, très dur. Il faut avancer. C'est un plaisir quand on y arrive.
Ça doit être frustrant quand on se bat contre des moulins à vent, quoi.
Tout à fait. Il faut apprendre à être frustré, ça c'est bien connu. On n'a pas toujours les moyens, on ne nous donne pas les moyens non plus.
Voilà, je pensais à ça. Est-ce que la hiérarchie vous soutient aussi?
Non.
Et oui, non. Et voilà.
Je suis ferme là-dessus, malheureusement, non. Il faut vraiment se battre contre, je ne dis pas tout le monde, mais presque. Il faut se battre, ça c'est certain. Et je comprends les jeunes professeurs qui ont des doutes. Les jeunes qui voudraient intégrer ce métier, mais qui devient de plus en plus difficile compte tenu du contexte de la famille et des familles qui sont de plus en plus qui ont des problèmes. Sociaux qui ont on n'est pas qu'enseignant, on est assistant social, on doit être à l'écoute de tout et de tout le monde. Et on n'est pas souvent pas toujours du moins écouté, justement, et compris. Il y a des quiproquos qui font que qu'on arrive à des choses terribles.
Comme quoi?
Ça peut commencer par des paroles difficiles, insultantes, et puis plus. Hein, on a bien vu que des enseignants se faisaient agresser. Donc c'est agressé pas forcément par les élèves, même s'ils sont grands, malheureusement par les familles, par les amis, par des... Par ceux qui n'ont pas compris, qui ont voulu comprendre autre chose.
Oui. Je crois que c'est surtout ça. Je crois que c'est pas qu'ils n'ont pas voulu, c'est pas qu'ils n'ont pas compris, c'est qu'ils n'ont pas eu envie de comprendre.
Je pense qu'il y a les deux, mais c'est vrai qu'il faut travailler cette aptitude à écouter et donc à comprendre. À discuter, parce moi j'ai passé des heures à parler, à échanger avec des parents, à essayer de les aider, à les soutenir. C'est, C'est énorme.
C'est ça, il vous faut presque éduquer les parents avant les enfants.
Tout à fait.
Sauf que ce n'est pas votre rôle et que ça doit vous prendre une énergie considérable.
Oui, et puis bon, on se demande à quel moment on peut enseigner. D'abord, il faut rééduquer, effectivement, expliquer aux parents. Mmh. À des parents qui se font, ça m'a vraiment choquée dans mes dernières années d'enseignement, des parents de maternelle qui se faisaient frapper par leurs enfants de 3 à 4 ans. Mmh. C'est fou. On se dit, mais comment ça se fait? Il y a vraiment des choses à apprendre aux parents, parce que bon, on n'est pas parents, hein, bien sûr, on apprend tous les jours. Moi aussi j'apprends, je suis mère aussi, mais on apprend. Mais voilà, il faut savoir dire non, il faut savoir mettre des limites.
Et oui, c'est notre rôle.
Important.
Alors j'allais vous poser la question, vous avez combien d'enfants?
Alors j'ai deux grands-enfants, de 35, et un garçon de 35 et la fille de 30 ans bientôt.
Et comment ça se passe quand on est prof et qu'on a une journée épouvantable avec des ados et qu'on rentre à la maison et qu'on a les siens à gérer?
C'est dur. Bon, c'est vrai que les enfants, quand ils sont petits, ne comprennent pas, mais après ils comprennent effectivement... ils ont participé en général, ils ont participé en même temps à se vivre ensemble dans une école, donc à se frotter à tous les problèmes, eux aussi en tant qu'élèves. Mais c'est vrai que bon, la patience n'était plus mon fort après une journée complète d'école.
Mais à un moment donné, on doit finir par dire « je ne suis plus d'humeur là, ça va ».
Tout à fait,
ouais,
tout
ça.
À fait. Moi, mais on n'arrête pas, hein, je veux dire, on ne ferme pas la porte de l'école comme on ferme celle d'un bureau. Ça continue encore et encore. On va faire les courses, on rencontre les enfants, enfin les élèves.
On se couche le soir, on pense encore à un des élèves.
Tout à fait.
Un problème à régler, oui, des choses comme ça.
Il y a des problèmes, on pense à oui, il y a beaucoup de choses. Beaucoup trop de choses. Et moi, je trouve que l'enseignement, j'avais employé un terme, une image, était comme un millefeuille. En fait, on voulait mettre trop de couches superposées qui ont fait que l'école devient difficile à certains enfants, même aux enseignants, parce que...
Qu'est-ce que vous appelez trop de couches superposées?
Trop d'enseignements, trop de conditions, trop de choses qu'on impose, trop de programmes changés. J'ai toujours dit un pas en avant, trop en arrière. L'école est toujours...
Les réformes, les fameuses réformes qui s'enchaînent.
Toutes les réformes qui s'enchaînent, tout à fait. C'est terrible. L'enfant est au cœur de ces problèmes et on oublie l'enfant. On oublie l'enfant. L'école, c'est aussi enseignement, je dirais, c'est politique, malheureusement. Donc, pendant ce temps, l'enfant, il faut essayer de le préserver aussi en tant qu'enseignant. Et c'est difficile parce qu'il faut qu'on se batte un petit peu de tous les côtés. C'est vraiment dommage. Je pense qu'il faut quand même écouter les enseignants, les respecter au niveau de hiérarchique. C'est vraiment dur. Donc, l'éducation spécialisée a quelque chose de particulier, dans ce sens que c'est une autre écoute, une autre ouverture, un autre regard. Il y a beaucoup plus d'empathie, beaucoup plus de liberté, parce qu'on sait qu'on est dans un contexte difficile et qu'on a des choses difficiles à travailler. Et je pense que ce regard-là, cet esprit-là, justement, devrait être au sein de tout l'enseignement général, en tout cas.
Et à titre personnel, comment vous avez émotionnellement réagi à ce qui s'est passé avec Samuel Paty? J'imagine que ça a été un choc.
C'était un choc.
Ouais.
J'ai été vraiment choquée. J'ai connu de la violence. Et pas... Là, c'est plus la violence, c'est la barbarie. C'est tellement...
C'est le mot,
oui. Oui, et surtout quand on a continué un petit peu à en parler, à expliquer, à découvrir ce qui s'était réellement passé. Mais quel dommage, quel drame et quel dommage. Tout ça pour, je dirais tout ça pour ça, en fait. Des mots en l'air, des mots faux, des mots rapportés, des mensonges en fait. Hein, voilà, est-ce qu'on saura vraiment la vérité? Je ne sais pas, mais en attendant...
Le mal est fait. Quoi.
C'est horrible.
Quand vous horrible, dites, quand vous dites j'ai connu la violence, c'est-à-dire c'est allé jusqu'où avec vous?
Bah, j'ai connu la violence avec ces adolescents, certains adolescents qui étaient violents, qui agressifs, plus que violents, qui auraient pu être peut-être dans d'autres quartiers plus difficiles, ou auraient pu pencher vers la violence, mais l'agressivité, ce rejet, donc ce besoin de provoquer, c'était au départ des adolescents qui pouvaient monter sur les tables, qui arrivaient avec des couteaux.
Donc, ah oui, bon, quand même.
Oui, quand même, oui, tout à fait. Bon, il est vrai que dans certains quartiers, les enseignants ne sont pas protégés.
Et surtout, j'étais en train de me poser la question, est-ce que vous êtes formée psychologiquement pour gérer ce genre de choses?
Alors moi, j'ai vraiment commencé ma carrière comme ça, c'est-à-dire sur le terrain. Aucune formation.
Oui, c'est ça. Oui, rien en amont, quoi.
Non, absolument pas.
On vous pousse dans le grand bain et on regarde combien de temps vous mettez pour vous noyer, quoi.
C'est ça. Donc, et en plus, lorsqu'on fait des remplacements à l'année, bon, je dirais que c'est une chance quand même, parce que moi, j'aimais bien. Mais lorsqu'on tombe dans une classe, par exemple, qui a été conditionnée, qui a été formée par l'enseignant qui était là avant, c'est pas toujours facile. Parce que tout ne... Enfin, non, c'est pas, je ne vais peut-être pas dans les détails, mais c'est vraiment difficile de s'adapter à une classe atypique. De toute façon, c'est vraiment... c'est un petit peu les... On est au bas d'échelle, et puis chaque jour, chaque semaine, chaque mois, on grimpe un échelon, un de plus, deux parfois. Mais vraiment, il y a vraiment moi ce côté éducation nationale, éducation pardon spécialisée, donc m'a vraiment marqué par rapport à l'émotion, par rapport aux résultats, par rapport à ce qui pouvait se, je trouve pas les mots, se partager.
Cet enrichissement mutuel finalement.
Tout à fait. Oui. C'est un amour, je dirais, un amour innocent d'adolescent redevenu presque enfant et se sentant apprécié et qui apprécie eux-mêmes. Donc c'est un échange, effectivement.
Mais enfin, vous êtes quand même, Nadine, quelqu'un d'exceptionnel, hein, parce que je ne suis pas sûre que beaucoup de profs aient ce discours-là et ce courage que vous avez eu, cette volonté de faire aussi bien.
Oui, mais justement, c'est ce que je dis, c'est une passion. Bon, moi, je suis vraiment attirée par cette difficulté, à surmonter, même encore maintenant. Je ne sais pas pourquoi, c'est comme ça. Hein. Je suis beaucoup dans l'émotion. J'ai besoin de me sentir utile. Pas forcément être justement celle qui accumule les formations et les informations aux élèves, aux parents, parce qu'on nous a... oui, c'est notre rôle, bien sûr, mais bon, c'est vrai que ce côté social ne me déplaît pas, mais il faut vraiment qu'il y ait du temps, de la confiance, de la part de la hiérarchie, je répète, de la part de l'équipe pédagogique. C'est un travail vraiment... difficile et qu'il faut gagner, une confiance qu'il faut gagner si on veut pouvoir avoir un enseignement de valeur. Et là, j'ai l'impression, enfin, c'est même une certitude, qu'on a oublié complètement les valeurs. On s'intéresse plus justement au programme qu'aux valeurs. Je pense qu'il faut peut-être remettre les choses à leur place, commencer par la valeur, les valeurs, et puis arrivent les programmes. Bien sûr qu'il faut... Il faut, on peut le dire constamment, il faut, mais il faut arriver à quelque chose.
Alors il y a, Dieu merci, des écoles test où on apprend aux enfants à gérer leurs émotions, par exemple, dès les plus petites classes. On leur apprend la sophrologie, la méditation. on leur apprend à respecter l'autre. Il y a des manières différentes d'évoluer, mais c'est, pour l'instant, ce sont des tout petits cailloux sur un grand chemin. Mais ça commence à bouger quand même, je trouve.
Oui. Bon, après, bon, il est évident que ce sont des classes qui ont peu d'effectifs. Lorsque j'ai fait de la sophrologie, hein, j'ai fait pas mal de choses aussi, mais avec 30 enfants, 29-30 enfants, tous complètement différents, oui. Avec des besoins différents, avec là aussi des problèmes comportementaux. Des enfants, malheureusement, il m'est arrivé de devoir choisir entre un enfant et le reste des enfants. Fallait-il quelle était la priorité? Fallait-il mettre justement mettre un petit peu de côté, laisser les autres enfants en autonomie pendant qu'il fallait s'occuper de l'enfant qui ah posait
oui.
problème?
Oui,
mais c'est difficile de choisir. On ne peut pas se dire je suis obligée de m'occuper de cet enfant là
et j'en ai 29 derrière qui sont en attente. Oui, c'est ça.
Et oui. Et il n'y a pas les mêmes attentes. Donc c'est vrai que là, ce sont tous ces problèmes-là qui font que l'enseignement est très difficile.
Est-ce que vous pensez qu'il y a de moins en moins de jeunes qui cherchent à devenir prof ou ça change pas tellement? Il y a quand même encore des vocations.
Je pense qu'il y a de moins en moins de jeunes parce que ça fait peur. Ils ont raison. Et on n'a toujours pas les moyens. Enfin, je n'y suis plus, mais je pense, le peu que j'entends, je ne vois pas beaucoup de moyens proposés, des moyens supplémentaires, dirais-je, proposés.
J'ai l'impression que ça fait des générations qu'on entend la même chose. C'est terrifiant.
Oui, on tourne en rond. Quand je dis que c'est politique, c'est tout à fait ça.
Je ne sais plus quel homme politique avait dit à l'époque qu'il fallait faire bouger le mammouth. C'était un peu ça, l'expression.
C'est ça, oui, tout à fait.
Ben, le mammouth, j'ai l'impression qu'il n'a pas bougé beaucoup. Hein.
Non, on change de politique, mais on ne change pas de raison d'être au niveau de l'enseignement. On n'est pas. Il faudrait faire confiance quand même à ceux qui sont sur le terrain, parce qu'il y a des choses vraiment énormes, hein, qui n'ont entre la théorie et c'est bien connu, hein, et la pratique, mais on ne fait pas assez confiance justement aux enseignants.
Alors vous avez raison, il y a une question de confiance, mais ce n'est pas le tout, non seulement faire confiance, mais de donner des moyens ensuite.
Il y a l'argent aussi.
Eh bien c'est ça, quand je parle de moyens, c'est des moyens matériels, ce n'est pas le tout d'avoir confiance en vous. C'est, si on a confiance en vous, il faut vous donner les moyens de faire ce que vous dites et ce que vous souhaitez faire. Sinon, ce ne sont que des mots, et j'ai l'impression que depuis des générations, on entend des mots.
Des mots, et puis oui, effectivement, et puis lorsqu'on sait que l'enfant, de toute façon, on parle de l'enfant comme un coup, c'est malheureux, mais c'est vrai. Donc l'élève, pardon, c'est pas l'enfant, c'est l'élève à ce moment-là. L'élève a un coup, donc voilà. Arrive peut-être plus tard quelques valeurs, mais on parle surtout de coup. Le coup au niveau de l'école, au niveau de l'élève, etc. Donc bon, c'est difficile de placer au milieu de tout ça l'enseignement... approprié à chacun. Il faudrait être partout, avec tout le monde, de la même façon. Enfin, c'est pas possible. On a quand même nos limites.
Et puis, comme vous dites, vous parlez de 30 élèves par classe. Moi, j'ai vu des classes où il y en avait 34, 35 facilement. Ça, c'est ingérable.
Oui, tout à fait. Tout à fait.
Et il suffit qu'il y en ait un qui pose problème pour que toute la classe déraille.
Ah, là, c'est catastrophique. Oui. Des enfants qui ont... qui sont malheureux, voire malades, qui ont quelquefois des traitements, ou qui devraient en avoir, qui méritent une attention tout à fait particulière, des enfants suicidaires, j'ai eu de tout. Mais comment...
Comment gérer ça? Comment gérer ça?
C'est pas possible. Les familles qui sont en pleurs ou en colère, il faut tout gérer. Et c'est l'enseignant n'est pas
assistante sociale.
Si on l'est, ça on le devient, on est obligé.
De fait, j'allais dire vous le devenez de fait, mais à l'origine ça ne devrait pas être le cas.
Non, on ne doit pas éduquer, on doit enseigner, c'est complètement différent. Mais il est vrai qu'on éduque plus qu'on enseigne.
Oui.
Donc on ne peut pas à un moment donné, voilà, il y a un choix à faire. je ne sais pas, mais il faudrait vraiment se pencher là-dessus, hein, sur cette problématique. L'enseignant, je répète, doit apprendre ces choses, apprendre des valeurs, mais pas éduquer. Éduquer, je veux dire, éduquer comme la famille doit éduquer les enfants.
Ouais. C'est là que ça a dérapé.
Les parents, certains parents ne sont... Il y a beaucoup de familles recomposées. Donc tout n'est pas compris, tout n'est pas bien géré non plus. C'est vrai que tout le monde manque de temps, les parents aussi. Il y a ceux qui sont perdus, il y a plein de choses.
Il y a des parents démissionnaires, il y a des parents qui n'ont pas les capacités. Enfin, il y a mille et une raisons, ça c'est sûr. Mais il y a quand même à la base un sacré changement à mettre en place.
Tout à fait. Ah, oui, c'est un travail gigantesque. Effectivement, on remet à chaque mandat.
Exactement. Et j'ai l'impression que dans 50 ans, le mammouth sera toujours à la même place.
C'est malheureux.
C'est vrai que c'est un peu décourageant.
J'ai bien peur qu'on continue comme ça, effectivement. Et ce sont quand même les élèves et les enseignants qui prennent... qui deviennent victimes.
Ouais. Nadine, l'émission va se terminer. Merci en tout cas de ce témoignage vraiment touchant, intéressant, émouvant, de cet hommage que nous en profitons pour rendre à Samuel Paty et à tous les enseignants de cette planète qui sont comme vous et qui font de leur mieux en tout cas.
Je leur souhaite vraiment un bon courage parce qu'il faut avoir du courage et de l'amour et de la patience.
Et je sais que vous en avez eu beaucoup, en tout cas, Nadine. Merci de votre témoignage.
Merci beaucoup.
Bonne fin de soirée. Au revoir, Nadine.
Au revoir. Mais serait-il possible de lire mon poème hommage ?
Là, ça va être trop tard. L'émission se termine. Il me reste 20 secondes. Je ne peux plus, là. Désolée.
D'accord.
Je suis désolée.
Merci.
Je vous embrasse, Nadine.
Merci.
C'est effectivement terminé pour ce soir. Il nous reste juste le temps de vous donner rendez-vous demain à partir de 23h pour de nouveaux échanges, de nouvelles confidences. Et je vous quitte avec la phrase du jour. Dans un couple, peut-être que l'important n'est pas de vouloir rendre l'autre heureux, c'est de se rendre heureux soi-même et d'offrir ce bonheur à l'autre. Je dédie cette phrase du jour à Karine, bien sûr. Je vous souhaite une bonne nuit, je vous embrasse et je vous dis à demain. 1h du matin sur Europe 1, c'est donc le début des programmes de la nuit.